Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Noura Mebarek, conseillère municipale de la ville d'Arles, vice-présidente de la communauté d'Aglo et c'est ce qui nous intéresse ici, première secrétaire fédérale des Bouches-du-Rhône. Bonjour.
Bonjour.
Une actualité dense, les scissions au sein du Parti Socialiste, la Fédé et ses soucis immobiliers, entre autres bien sûr, les européennes sans oublier le local, mais auparavant Noura Mebarek. C'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Nous démontrons une fois de plus que Le Ravi est à la pointe du journalisme d'investigation. La preuve, après des mois et des mois d'enquête, nous avons enfin réussi à dénicher un socialiste satisfait qui n'envisage absolument pas de claquer la porte de son parti. Oui, vous avez bien entendu, et ce n'est pas une blague pour amuser les auditeurs de la Grenouille. Notre invité n'a aucune intention de rallier le président des riches En Marche, ni Mélenchon, l'insoumis en fusion, ni d'aller pantoufler dans un groupuscule comme celui fondé par Hamon. Noura Mebarek, vous avez été élue en avril dernier à la tête de la Fédération PS des Bouches-du-Rhône. C'est la première fois qu'une femme dirige la Fédé 13, qui fut autrefois l'une des plus puissantes de France. Et qui, privée de la quasi-totalité de ses parlementaires, contrainte à vendre son siège historique et marquée par des guerres internes homériques. Issue de l'aile gauche du PS, dont une partie des troupes vient de faire scission, vous avez donc accepté d'assumer l'encombrant héritage. Votre élection a été une surprise. Pensez donc, une femme d'origine maghrébine de surcroît, une frondeuse et cerise sur le gâteau implantée dans les fort, fort lointaines terres arlésiennes. Heureusement, votre destin familial vous a préparé à cet art de la synthèse si précieux lors d'un congrès socialiste. Vous êtes né il y a 46 ans à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Votre père est ouvrier, issu de la première génération d'immigrés algériens. Mais vous êtes adopté par le médecin qui vous a vu naître. Vous évoluez ainsi dans un milieu bourgeois sans perdre de vue votre autre famille avec ses 7 frères et sœurs. Votre père adoptif, de centre droit, mais très républicain, s'installe à Arles. Vous y goûtez aux joies du militantisme associatif. À 18 ans, vous êtes animatrice au centre social du Bariol, l'un des quartiers populaires. Un certain Michel Vauzel vous repère dès 95. Mais c'est au mouvement des citoyens de Chevènement, séduite par son refus de la guerre en Irak, que vous adhérez pour vos 27 ans. Vous êtes élu à Arles sur la liste d'union de la gauche conduite par Schiavetti et rejoignez le PS en 2004. Salarié au sein de différentes collectivités territoriales, tour à tour adjointe chargée de l'enfance, puis de la délinquance, c'est un peu la même chose en fait, président du groupe PS, vous êtes toujours conseillère municipale et désormais l'une des vice-présidentes de l'agglo. Vous y menez la fronde contre une vassalisation par la métropole marseillaise. Membre du bureau national du PS, vous voilà maintenant co-responsable du courant, orphelin de leader, depuis la scission d'Emmanuel Morel, dont vous étiez la mandataire dans le 13. Le nom de ce courant, l'union et l'espoir. Tout un programme.
Noura Mebarek, une réaction à ce portrait à la sauce ravie.
Mais écoutez, c'est un vrai portrait, et réel, et réaliste.
Bon, rien à rajouter donc. Noura Mebarek, lors du dernier congrès du Parti Socialiste, vous étiez, comme vient de le dire Michel, mandataire d'Emmanuel Morel, ex-député PS, ex-candidat au poste de premier secrétaire, ancien membre du bureau national du Parti Socialiste, qui a déclaré, je cite, « Le PS ne correspond plus à l'idée que je me fais du socialisme. » Vous, Noura Mebarek, vous vous reconnaissez toujours dans ce Parti Socialiste ?
Pour l'instant, ce que je reconnais, c'est que nous avons... Il n'y a rien qui a changé au niveau du Parti Socialiste depuis le mois d'avril et la candidature d'Emmanuel Morel au poste de premier secrétaire. Je crois que le Parti Socialiste a vécu une année 2017 qui est connue de tous et le congrès a eu lieu en avril 2018. Donc, nous sommes partis sur ce congrès en disant qu'on allait prendre notre part à la refondation. Et je m'y suis engagée. Et donc, pour l'instant, je souhaite encore prendre part à la refondation du Parti Socialiste, puisque rien ne s'est passé, on va dire, de aujourd'hui à avril 2017.
Olivier Faure, qui est le premier secrétaire national, a qualifié cette décision d'Emmanuel Morel de décision populiste. C'est des mots forts. Vous avez les mêmes qualificatifs envers votre ancien mentor ?
Pas du tout. Je pense qu'Emmanuel Morel s'est mis en cohérence avec lui-même. Il a défendu une idée de la gauche, puisque vous citiez que j'étais mandataire sur cette fois-ci. Mais je suis mandataire d'Emmanuel Morel depuis 2012 dans le département. Et nous avons toujours eu une aile gauche qui représentait, dès l'élection présidentielle d'ailleurs de François Hollande en 2012, à peu près 25 à 30% du parti. force de constater que cette fois-ci, on a été encore plus bas. Et Emmanuel Morel a mal vécu, à juste titre, le fait que viennent en succession, en premier, évidemment, le texte d'Olivier Faure et ensuite celui de Stéphane Le Foll, ce qui a réduit la marge de manœuvre de l'aile gauche. Et depuis donc un certain temps, il se posait la question de la refondation.
Alors quand même, votre candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, avait quitté le parti avec des troubles. Maintenant... C'est donc Morel, pas tout seul, hein, donc il parle d'une scission, je sais qu'il y a des... On va y venir peut-être aussi sur le plan local, enfin, il y a eu aussi quelques départs. Ça fait beaucoup de monde, enfin, pour un parti déjà affaibli par le départ, on va dire, de l'aile droite peut-être, vers les marcheurs. Qu'est-ce qui reste au Parti Socialiste et pourquoi, à tout prix, vous qui revendiquez justement une identité de gauche, enfin une volonté de renouer avec cette tradition-là, pourquoi penser que ça peut repartir de ce parti émietté, contesté, y compris par des gens qui ont milité pendant des années et des années?
Parce que je fais la différence entre être socialiste et appartenir à un parti. Un parti, ce n'est qu'un outil. C'est un cadre, c'est une maison commune, voilà. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on est dans le contexte où vous le rappeliez, Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, est parti à quelques jours... après l'élection présidentielle, avec son score et ses camarades. Avant lui, était parti le candidat qui avait été au primaire, Manuel Valls, pour les marcheurs, et maintenant à Barcelone. Donc, honnêtement, le Parti Socialiste étant, bien sûr, c'est pas une découverte, étant en situation très difficile, dans un espace bloqué entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Mais cet espace est en train de s'agrandir, puisque ceux qui ont cru qu'Emmanuel Macron pouvait avoir être ni de gauche ni de droite comprennent au bout d'un an que c'est d'être de droite et de droite. Bon, Jean-Luc Mélenchon est le candidat arrivé avec les voix de gauche, le premier candidat de voix de gauche, puisqu'il est troisième et donc il est celui qui, évidemment, a à composer. C'est à lui de rassembler maintenant l'ensemble de l'électorat de gauche. Et pour l'instant, le Parti Socialiste peut être encore un parti qui vienne faire des propositions pour agréger la partie de la gauche qui pense qu'on doit être une gauche de gouvernement.
Non, mais Barek, c'est encore au Parti Socialiste que ça se passe, au niveau de l'opposition, des propositions, on ne vous entend pas beaucoup, on entend plutôt la France Insoumise. Ils se déclarent d'ailleurs eux-mêmes premier opposant, Emmanuel Macron.
Mais moi, je n'ai pas l'ambition d'être candidate à la présidentielle. Donc, ce que je sais, c'est que dans les oppositions, en tout cas, et dans une majorité sur les élections locales et dans le département, et on va y revenir, c'est des socialistes qui co-gèrent, c'est des socialistes qui gèrent, ou c'est des socialistes qui sont en opposition.
Alors, Marc Villemot, alors on n'est pas dans les Bouches-du-Rhône, on est dans le Var, mais vous le connaissez
maire
bien.
Maire de la Seine.
Maire de la Seine-sur-Mer, mm-hmm. Une des dernières grandes villes mm-hmm. de la région.
65 000 habitants. Mm-hmm.
À être donc dirigé avec Avignon hein, par le... Alors, on ne peut plus parler de socialiste, puisqu'il est parti, lui aussi. Et, il n'est pas tout jeune. Hein, il dit un tiers de siècle de sa vie s'est passé dans le cadre de ce parti. Et aujourd'hui, il dit non, le PS n'est plus à même de rassembler toutes les sensibilités de la gauche et de l'écologie. C'est dur. Qu'est-ce que vous lui répondez, lui et aux autres, qui pourraient avoir envie de suivre son exemple?
Je crois que Marc Villemot, que je connais bien, puisqu'il est le président de l'Association des villes et banlieues de France, a eu un choc au lendemain des régionales et au lendemain du premier tour, puisqu'il était d'un partisan de ne pas enlever la liste du Parti Socialiste de l'époque, avec Christophe Castaner en tête de liste. Moi, je fais partie de ceux ou de celles qui, en tout cas, revendiquent le fait qu'on ne peut pas toujours demander aux électeurs de faire le Front Républicain et que les partis politiques doivent prendre leurs décisions. Donc, déjà à l'époque, il se posait la question. Puis, deuxièmement, Marc Villemot est une personnalité du Var qui sait faire le rassemblement autour de lui, puisqu'il compose à la Seine une commune et un conseil municipal qui part de l'extrême gauche jusqu'au MoDem. Et donc, je pense que c'est cet exemple-là sur les élections locales qu'il faudra prendre. Donc, le Parti Socialiste a peu, on va dire, d'impact sur son élection locale, élu et réélu, parce qu'il sait faire le rassemblement. Et donc, j'encourage mes camarades, quel que soit leur choix, qu'ils restent au Parti Socialiste ou qu'ils créent leur propre mouvement, de penser que la gauche seule, en tout cas, ne gagne pas.
Noam Barak, la mission première du Parti Socialiste, s'occuper des plus modestes, entre autres. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou est-ce que la social-démocratie assumée par François Hollande a changé le logiciel du parti? On se souvient tous de la loi travail, la déchéance de nationalité.
Elle a, je pense que le mandat de François Hollande, et notamment sur les deux volets que vous dites, c'est-à-dire à la fois les ordonnances, mais dès le lendemain d'ailleurs de l'élection présidentielle, ce qui a donné le début de la fronde avec sa conception de la non-renégociation du TSG, fait que François Hollande a affaibli l'idée du socialisme. Et en tout cas, l'idée que les électeurs, quand ils votent socialiste, ils votent à gauche. Il n'y a pas d'autre choix. Si on est socialiste, on est de gauche. Et si on est de gauche, on vote socialiste, communiste, Europe Écologie Les Verts et autres. Et c'est vraiment ce droit d'inventaire que Olivier Faure va devoir faire. Parce que, au même titre qu'une certaine partie, votre collègue le disait tout à l'heure, est partie par opportuniste, ou en tout cas par choix de se mettre en cohérence quand En Marche a été au lieu, parce qu'on les trouve moins aujourd'hui à défendre Emmanuel Macron après un an de mandat, d'ailleurs, les mêmes qui ont fait le choix de partir. On a vu que le remaniement a duré 15 jours, donc il ne devait pas y avoir foule pour y rentrer. Aujourd'hui, honnêtement, le Parti Socialiste a à refaire cet exercice de sa ligne politique, mais elle est... Aujourd'hui, clairement, le Parti Socialiste dit qu'il est dans l'opposition d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Vous dites on n'entend pas beaucoup le Parti Socialiste, on l'entend. Le contre-budget, la semaine dernière, c'est faire des propositions de fond par rapport à ce que mène Emmanuel Macron. Là où on l'entend moins, c'est sur le militantisme, sur les actions fortes comme peut monter France Insoumise, par exemple, avec les écoles sur Marseille cet été. Et c'est cette capacité-là de faire converger des gens sur des actions concrètes qui manquent aujourd'hui au Parti Socialiste.
Être plus audible, vous avez dit que Olivier Faure devait faire un droit d'inventaire. Le dernier quinquennat a été à rebours de tout ce qui a été promis durant la campagne Hollande. Cet droit d'inventaire, il va réellement être réalisé ?
Il est en cours, puisque nous l'avons obtenu, d'ailleurs avant le départ d'Emmanuel Morel. Il est en cours aussi sur ce qui a marché, puisque sinon on ne serait pas objectif. Il est en cours sur ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui n'a pas du tout marché. La déchéance de nationalité en fait partie.
Olivier Faure est quand même pas très 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 audible. Alors une dernière fois, citation de Marc Villemot, il dit « ce parti ne semble pas encore exister, mais entre le groupe PC à l'Assemblée nationale et le groupe des Insoumis ». On l'a pas médiatiquement beaucoup entendu. Il y a comme un plafond de verre là qui a pas été franchi, non ? Il y a pas quelque chose à faire.
Il est entre une Marine Le Pen qui a été candidate à la présidentielle et chef de son parti depuis qu'elle est petite, et avant elle son père. Il est face à un Jean-Luc Mélenchon qui a été aussi candidat à la présidentielle et qui est le tribun qu'on connaît. Donc l'espace médiatique, évidemment, on le voit depuis quelques semaines, à part de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est compliqué de parler politique pour parler politique dans les médias à l'échelle nationale. Ensuite, je rappelle quand même que la gauche a une capacité parlementaire, j'entends, à se rassembler, puisque la seule motion de censure qu'ils ont pu déposer de manière commune sans se disputer, c'est celle pour la commission d'enquête pour Benalla. Donc j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter à la commission d'enquête qui, avec le succès qu'on connaît sur l'affaire Benalla, et qu'ils seront maintenant encore plus en phase sur des sujets qui concernent le quotidien des Français.
Alors le député européen Morel et la sénatrice Lindemann, qui sont les deux têtes de figure de ces gens qui sont partis du PS, ont lancé la semaine dernière Après, donc c'est le nom de leur mouvement, avec le MRC, ce qui reste du chevènementisme. Et ils revendiquent 650 élus derrière eux dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont 7, hein, 7 militants, dont Gaëlle Lenfant, qui est une secrétaire fédérale aixoise, ont communiqué en disant nous militerons désormais pour nos causes communes. Ça vous paraît un mouvement effectivement important, ce départ, ou limité à l'échelle locale, notamment cette scission?
Alors, j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'un camarade s'en va, c'est une perte pour le Parti Socialiste. Et surtout, puisque vous dites qu'on est très bas et qu'on est peu et qu'on est inaudible et qu'on n'existe pas. Donc 7, vous le mettez en référence aux 1300 adhérents.
Vous diriez quand Manuel Valls a quitté le Parti Socialiste, vous diriez que c'est une perte
pour
le Parti Socialiste?
Voilà. Alors après, Manuel Valls ne devait pas être au Parti Socialiste. Je pense que c'est plutôt ça. Il est reparti à sa famille d'origine naturellement. Bon. Donc Gaëlle Lenfant, qui était la candidate aux primaires à Aix et qui est une conseillère métropolitaine avec le groupe socialiste et évidemment a une valeur ajoutée comme l'ensemble des camarades. Voilà. Ensuite, vous me dites 650, moi j'ai lu 500. Bon, pour l'instant, on a une liste de 200. Et quel que soit le nombre, finalement, et le chiffre, là, n'est pas la question.
Mais vous avez évalué l'ampleur de cette scission, entre guillemets, au sein de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, là, par les deux personnes? Parce qu'on parle là des cadres, mais les militants sont également...
Militants qu'on fait, c'est des militants d'ailleurs.
Oui, mais enfin les militants de base qui n'ont pas de responsabilité.
C'est des militants.
Bureau fédéral, secrétaire fédéral, etc. On ne va pas tous les citer. Ils ont signé un texte à 7.
Voilà, il a répondu.
7 personnes.
Alors venons-en à cette fédération, peut-être. On reste un peu sur l'actualité nationale et on viendra à la fédération du 13.
On va commencer un petit peu cet inventaire. On va essayer de trouver un peu des explications. Noram Bérec, 2012, les socialistes ont tous les pouvoirs. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, présidence de la République. 2017, le Parti socialiste devient un parti marginal. Le principal responsable, tout le monde le pointe du doigt, en tout cas Morel l'a pointé du doigt, lui, c'est François Hollande. Alors, François Hollande, qui sans faire son mea culpa, s'impose sur la scène médiatique et un des scénarios qui est évoqué par certains espère être investi pour les prochaines présidentielles. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Une investiture de François Hollande pour les prochaines présidentielles.
J'en pense rien, parce que je pense que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, d'abord, je vous rappelle que depuis Nicolas Sarkozy, les quinquennats ne durent qu'une fois. C'est valable pour Nicolas Sarkozy, ça avait été valable pour François Hollande,
comment
qui a
ça,
été empêché.
Les quinquennats ne durent qu'une fois.
C'est-à-dire, ils ne font qu'un quinquennat. C'est-à-dire, avant, on avait François Mitterrand, 81-88, Jacques Chirac...
De droit, ils peuvent se représenter.
Oui, on a bien vu qu'ils étaient à chaque fois...
Ils n'ont pas réussi.
Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas concrétisé. Mais bien sûr que tout le monde souhaite se représenter, même en président d'association, je vous rassure. Mais il a été empêché sur un quinquennat sortant... Il a été empêché par pas n'importe qui, son propre ministre de l'économie. Qui a priori a pris à mon avis des bonnes leçons, puisque on le voit sur l'ordonnance travail par exemple, c'est la suite de la première ordonnance travail Myriam El Khomri. Bon, donc je ne comprends pas quelle est la question en fait. Pour moi la question elle est plus de savoir qui et si au Parti Socialiste aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire en 2018, on a des possibilités d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui, clairement non. On n'a aucune personnalité qui émerge au niveau national, vous le disiez avec notre premier secrétaire. Bon, donc c'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser, c'est de savoir si oui ou non nous sommes en capacité d'avoir un candidat socialiste. Si nous sommes empêchés d'avoir un candidat socialiste parce qu'on s'empêche ou parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout d'une... et refondation et d'une dynamique, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à gauche?
Mais est-ce que vous avez, alors puisque c'est le scrutin qui arrive, les européennes aussi, une vision pour l'Europe qui audible et qui distingue le Parti Socialiste du Parti Communiste, des Insoumis, à gauche?
Alors, j'ai pas lu,
Macronisme.
Je vous avoue que je n'ai pas lu le programme du Parti Communiste ni de France Insoumise parce que je n'ai pas, je ne les ai pas vus. Ce qui est du programme qui a été validé par les militants sur les européennes, c'est un projet qui est le programme le plus à gauche que depuis que le socialiste existe, et dont d'ailleurs Emmanuel Morel a été un jour député européen sur un texte finalement un peu moins à gauche. Donc déjà on se félicite que le Parti Socialiste retrouve une convergence vers les partis de gauche. Deux choses emblématiques. La première, c'est de dire oui, il faut renégocier les traités, parce qu'on peut toujours aller annoncer tout ce qu'on souhaite, et on le voit à la fois en matière de santé, d'environnement comme d'économie. Les traités font que on a des marges de manœuvre qui n'existent plus. Donc là, négociation des traités, ça me va très bien. Le questionnement sur le PSE, de savoir si on va siéger ou pas avec des gens qui, dans leur pays, font des coalitions avec des fachos, il fallait quand même le poser. Ça n'était pas posé jusque-là, donc c'est bien que ça se pose et qu'on en parle, parce que c'est aussi une réalité du Parti Socialiste Européen. Et troisième volet, des propositions très claires sur la garantie jeune universelle, le SMIC universel, voilà, des valeurs de gauche qui sont des lignes et des marqueurs. Voilà.
Valérie Rabault, d'ailleurs présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a demandé à Olivier Faure, le premier secrétaire, d'accélérer le processus de désignation des candidats pour les européennes. On en est où là?
Alors on devrait avoir une liste complète le 17 novembre.
Définitive?
Oui.
Je recite vos anciens amis de votre courant qui disent, mais nous faisons le constat que le PS a cessé de résister au libéralisme, pire qu'il y adhère parfois. Mais la question, on peut comprendre leur interrogation. Hollande élu pour lutter contre la finance, et puis qui choisit Valls comme Premier ministre, puis qui choisit Macron comme ministre de l'économie. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui les gens qui vont voter socialiste qu'il ne va pas y avoir un écart entre finalement les propos de campagne et les intentions? Alors l'autre chose qui est mise en avant, c'est le PS qui avait appelé à voter pour Juncker à la Commission européenne. Est-ce que le PS a changé finalement? Est-ce que le PS est vraiment un mouvement engagé contre le libéralisme économique?
Alors, sur Juncker, sur la Commission européenne, je vous rappelle que le PS à l'époque avait appelé à voter. Et par exemple, mon camarade Emmanuel Morel l'avait dénoncé, mais il n'était pas sorti du Parti Socialiste pour autant. C'est vrai, il y a des réalités certainement européennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est l'humilité, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme s'ils n'ont pas compris la leçon de 2017 avec le constat que vous faites collectivement entre on a tout perdu entre 2012 et 2017, mais qu'à un moment donné c'est qu'on ne sait pas s'adresser aux électeurs, parce que on peut toujours torturer et se torturer dans une salle de réunion, in fine c'est les électeurs qui décident. Bon, ben, on a vu leur choix en 2017 et le choix et la question qu'ils ont donné au Parti Socialiste. Deuxièmement, ce que vous dénoncez notamment sur la partie du social-libéralisme, c'est exactement les propos qu'a tenu Benoît Hamon pour sortir du Parti Socialiste quand il a eu fini la présidentielle, en disant « je ne peux plus évoluer dans ce parti, c'est social-libéral, c'est scandaleux » et autres. Bon, à l'époque, les mêmes que vous citez ont condamné l'attitude de Benoît Hamon en disant « il faut continuer, il faut se lever, il faut résister en interne ». Donc voilà, c'est ma position, il faut continuer à résister. Rien n'a changé entre l'élection présidentielle et celle-ci.
Alors, votre courant, c'est l'union et l'espoir. On va s'arrêter sur l'union, le premier terme. Il y a donc cette France insoumise, c'est l'actualité, avec un leader, Mélenchon, très énervé en ce moment, très énervé. Vous êtes, en tant que première fédérale, amenée à le croiser, j'imagine, ça a déjà eu lieu. Non, pas encore, mais ça va arriver, forcément. Député de Marseille, il faut discuter avec les insoumis, parce que votre secrétaire, Olivier Faure, a dit « Chers camarades, nous ne serons jamais populistes. Socialistes, oui. Écologistes, oui. Démocrates, oui. Populistes, jamais. » C'est le désaccord profond que j'ai avec Emmanuel Morel. Ça, c'était Olivier Faure il y a quelques jours. Le populisme de Mélenchon, vous le qualifieriez comme ça, et comment vous réagissez à ses propos sur les médias, à ses propos sur la justice?
D'abord, c'est deux choses différentes. Bon, on va parler d'abord de l'actualité de Jean-Luc Mélenchon. On va dire, voilà, je vais dissocier. Donc, moi, je suis toujours, j'en appelle toujours à la raison, et notamment quand on est candidat à quoi que ce soit d'ailleurs, et quand on se réclame de la République, on doit respecter les institutions républicaines, et notamment les forces de l'ordre et la justice. Première des choses. Qu'il ait été contrarié, énervé, peut-être blessé, et que sa blessure soit disproportionnée pour ce que nous pouvons nous en voir sur les médias, ça reste un homme, qui s'est fait lever à 7h du matin et qui reste un chef d'opposition et qui, à mon sens, a dû se dire que là-dessous, il y avait des choses pas claires. Bon, maintenant, raison gardant, ça fait 6 jours que ça dure, faut que ça s'arrête. D'accord, la surprise de la perquisition, très bien. Aujourd'hui, il a des arguments et la justice fait son travail, qu'on passe à autre chose et notamment qu'on passe à ce qui se passe au niveau national et européen et international. Je préférerais maintenant entendre et qu'on s'entende de tout sur ce qui se passe au Honduras, les réactions de Trump, le journaliste saoudien, que plutôt avoir 24 heures sur 24, Mélenchon dans la voiture, Mélenchon en vélo, Mélenchon ceci, Mélenchon cela. Bon, ça c'est une chose. Donc ça va se calmer, j'ai pas de doute là-dessus. Parler à nos collègues de France Insoumise, vous le disiez en début de propos, les gens dont vous me parlez, en tout cas moi, sur Marseille, je mets des visages derrière, les gens de France Insoumise, c'est des anciens socialistes, c'est des anciens camarades du Parti communiste. On a une gauche aujourd'hui de partis qu'on connaît, c'est-à-dire Parti Socialiste comme Parti Communiste, qui est en train de s'effondrer. Le congrès du Parti Communiste, historiquement, donne une majorité à la minorité.
C'est la première fois.
Hein. C'est la première fois. Le Parti Socialiste est dans l'état politique. Donc, France Insoumise reste un mouvement de gauche avec lequel, évidemment, il faut discuter. Et derrière, en plus, il y a des personnes, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, qui ne va pas être candidat sur les 36 000 communes de France, j'imagine. Alors, donc, il reste des camarades. Si la question c'est est-ce que entre la droite ou France Insoumise, quel est mon choix ? C'est France Insoumise.
Les convergences, quelles sont-elles ?
Elles sont ne serait-ce que sur la politique de justice sociale, ne serait-ce que pour les actions vous prenez sur Marseille, sur l'opposition à la droite, à la fois en matière de justice, en matière de rénovation urbaine, en matière de politique culturelle, en matière de politique associative, de politique sportive, d'accessibilité, d'éducation.
Et le fait qu'Olivier Faure, premier secrétaire, qualifie ça grosso modo de populiste.
Ben, j'ai envie de dire que je sais pas ce qui peut dans populiste, il y a peuple, c'est ça le souci. Alors, populiste, ça veut dire quoi?
Que je Jean-Luc, que
c'était ça.
C'était un petit peu dégradant.
Ben, écoutez, si c'est ça, je vais dire que lui aussi, après une semaine difficile de ses camarades de l'aile gauche qui s'en va, a dépassé les limites. Raison gardons, franchement, on est en train de parler à des gens, et notamment dans les Bouches-du-Rhône, et notamment à moi, et dont je me souviens bien, à qui on a demandé d'aller voter Estrosi à la régionale. Donc on va se détendre sur les partenariats et savoir qui est de droite et qui est de gauche.
Oui, un mot peut-être plus en avant sur cette notion de populisme. Il y a vraiment tout un courant à gauche qui dit que pour arriver à, notamment, à lutter contre l'abstention, il faut changer la façon de s'adresser aux électeurs et peut-être s'adresser au peuple avec d'autres mots, d'autres... voilà, il y a un courant, en Europe, vous le savez. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais qu'on soit pédagogue.
Est-ce que le PS que vous avez envie, vous, de voir reprendre pied, doit aussi aller sur ce registre-là pour toucher des gens qui...
Non, mais alors, honnêtement, je vais vous dire, moi, il y a plein de fois où, quand je regarde les dirigeants politiques nationaux parler, je ne les comprends pas. Mais parce que je pars du principe que j'ai une culture peut-être trop populaire et certainement pas haut niveau. Donc, bien évidemment, qu'à un moment donné, il va falloir que les responsables politiques se posent la question de savoir pourquoi les gens s'abstiennent, pourquoi les gens ne nous croient plus, pourquoi les gens ne font plus. Pourquoi ils comprennent leur maire et ils comprennent pas leurs députés, pourquoi ils comprennent leurs députés, pourquoi ils comprennent pas leurs ministres. Bon, reparler au peuple et en format peuple, et avec pédagogie, c'est une chose. Et après, derrière moi, avec fiabilité. Quand on dit les choses, on les fait. Sinon, on ne dit pas.
D'accord. Un mot.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Avec nous, et on pourra dire tous les mots que l'on veut, Michel Guéraud, Noram Barek, qui est premier secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône.
J'ai été censuré par Radio Grenouille. Un mot peut-être sur Christophe Castaner, parce que c'est pas rien, Christophe Castaner. C'était votre candidat, il n'y a pas si longtemps que ça, au régional, tête de liste, et aujourd'hui, premier flic de France, après avoir été à la tête du premier parti de France, en tout cas... pour ce qui est de la majorité au Parlement. Cette ascension de Christophe Castaner, enfin, encore une fois, c'était votre candidat.
Oui.
Comment on peut... Quel regard là-dessus? Tout semble s'accélérer.
Mais comme quoi, vous voyez, quand on est à 14% et qu'on perd au premier tour des régionales, 3 ans après, on peut être chef de parti dans le cercle du gouvernement et ministre de l'Intérieur. Donc tout
voilà,
est possible pour le Parti Socialiste et la Fédération des Bouches-du-Rhône.
Ministre, vous voulez quel portefeuille alors pour...
Non, mais aujourd'hui, concrètement, c'est quoi l'idéologie du macronisme? Comment quelqu'un qui est socialiste arrive à se retrouver avec autant d'aisance avec Emmanuel Macron?
Mais je pense que, pardon de vous le dire, mais j'ai cru comprendre que dans le congrès de En Marche de ce week-end, je ne sais pas s'ils appellent ça congrès, je ne me souviens plus, mais enfin, leur instance nationale, ils demandaient justement à travailler sur l'idéologie du parti. Donc, voilà.
Selon vous, ils n'ont pas d'idéologie, donc, que du pragmatisme.
Ni droite, ni gauche, on a de l'idéologie, on n'en a pas. Édouard Philippe avec Didier Guillaume... Christophe Castaner, bon, voilà, ça agrège des personnalités, certainement, mais de là à dire qu'ils ont un corpus politique, je ne crois pas.
Michel, président des riches, c'est une formule que vous reprendriez pour définir le bilan de Castaner, j'allais dire, le lapsus de Macron.
Après une année de pouvoir, un peu plus d'une année.
Honnêtement, c'est pas une caricature, c'est des faits. Dans la même semaine, il a annoncé la suppression de l'ISF. Et la baisse des 5 euros des APL. Si c'est pas ça, si on fait pas un choix entre, en une semaine, c'était en quelques jours, hein, c'était le lundi et le mercredi, il a fait un choix. Donc président des très riches, moi je rajouterais, je crois que c'est une réalité. Je pense qu'il a une idée que la société peut fonctionner dans une espèce de premier, deuxième et troisième de cordée à partir du moment où les premiers de cordée mangent grassement. Voilà. Et après, le peuple, il est content parce que les élites seraient bien organisées et réinvestiraient s'ils ont envie. Donc, c'est pas ma conception, moi. En tout cas, je sais qu'au niveau local, ça marche jamais. Et j'attends d'avoir le programme des municipales des candidats de En Marche pour savoir comment ils vont décliner à l'échelle des communes cette idée bizarre de premier de cordée.
Vous avez parlé, vous avez évoqué les municipales. Auparavant, il y a les européennes. Un mot peut-être. Est-ce que vous, Noram Berak, est-ce que vous redoutez le score historique des partis d'extrême droite lors des prochaines échéances électorales? Je pense aux européennes, également en 2020, des municipales.
J'ai le redoute d'autant plus que j'arrive moi dans une circonscription qui depuis 2002 augmente tellement le nombre de... Le Front National augmente tellement que cette fois-ci la députée En Marche avec l'appel à un Front Républicain est passée à 200 voix de la candidate Front National. C'est pas sur Marseille qu'on oublie que le 13-14, plus grand arrondissement, tombe aux mains du Front National parce que la gauche n'a pas su prendre ses responsabilités. C'est pour ça qu'après on en fait des tonnes à l'échelle régionale en 2015. Donc oui, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on a un problème de... Les gens ont peur. Les gens ont peur de tout. On est dans un climat d'insécurité tel que on a peur de son voisin et on connaît ce que ça veut dire quand on n'apaise pas les choses et encore plus quand on ne donne pas à chacun sa place dans la République. Et c'est plutôt, c'est pas tant de courir de mètre carré par mètre carré, comme j'ai pu entendre dire, que plutôt donner chacun les moyens de la même réussite.
Dans, cette, dans cette circonscription pardon, dont vous parlez, hein, celle d'Arles, vous aviez obtenu, c'était en juin dernier, 2017, 6%, c'était pourtant la circonscription de Michel Vauzel. Est-ce que le bilan du sortant n'était pas aussi en cause, enfin, quand on arrive à des résultats aussi bas?
Alors, d'abord, j'ai obtenu 8, merci. Ah. 6, c'était Benoît Hamon, donc je me flatte d'avoir fait 2% supplémentaire.
Mais à coup pas.
C'est pas grave. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas fait... Enfin, ça a été la vague. Enfin, je veux dire, quel que soit, et on le voit sur l'ensemble de la France, ce qui a marqué, c'est le quinquennat de François Hollande. Le Front National sur le Pays d'Arles a toujours été important, puisque la fois d'avant, Michel Vauzel gagnait à 700 voix. Pourtant, il était président de région, député sortant, et il gagnait 700 voix au-dessus du Front National. Donc, c'est une circonscription très particulière et très compliquée au niveau du département.
Le bilan n'est pas en cause, donc c'était le dégagisme.
C'était le dégagisme. Voilà, un candidat qui ne se représente pas, une élection présidentielle qui a donné le candidat de gauche, de socialiste Benoît Hamon à 6%, et malgré le soutien et je les en remercie d'une union totale de la gauche derrière ma candidature, j'ai au moins fait plus de 5%.
Mais au-delà de la circonscription, est-ce qu'aujourd'hui le Parti Socialiste parle avec les gens, essaie de comprendre leurs inquiétudes? L'angoisse identitaire, les flux migratoires, ce sont des thèmes qui reviennent quotidiennement, les gens ne parlent que de ça quasiment. Est-ce que le Parti Socialiste, vous, premier secrétaire, vous parlez avec ces gens-là, vous essayez de les comprendre, de les rassurer, ou peut-être ou pas?
Mais moi, je suis en plus d'avis que les...
Mais quelles solutions leur apporter?
Voilà. Le Parti Socialiste, c'est d'abord, c'est des gens, je peux vous dire, mais bon, je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est des militants, vous le disiez tout à l'heure en début. Sur le département des Bouches-du-Rhône, on en a quand même encore une soixantaine de sections, donc de gens qui vont militer sur leur marché et autres. Bon. Ça, c'est sur la partie de la proximité. Quels sont les retours, et notamment les retours des secrétaires de section dans ce département? Une vraie peur, pas plus qu'ailleurs, mais quand même sur Marseille, un vrai choc, on va dire, où le peuple marseillais comprend qu'ils sont quand même les derniers des derniers au niveau des métropoles françaises. Bon. Quelles sont les solutions? Moi, je pense qu'il faut poser le propos en l'état. Il faut arrêter de culpabiliser les gens, de leur dire « vous avez peur d'être raciste, si vous voulez pas vivre dans un quartier populaire ». C'est pas possible de continuer à dire que la police doit pas faire son travail, elle doit le faire. Je peux, là, pour le coup, je partage beaucoup les avis de Samia Ghali sur la question. La police doit rentrer dans tous les quartiers. L'éducation doit, c'est juste l'éducation. On doit combattre cette histoire de rats dans les écoles. Mais où on est en France, dans la deuxième ville de France. Et à un moment donné, on ne serait pas en capacité d'avoir une espèce d'union territoriale, quelles que soient les partis politiques, quelles que soient les opinions des gens, pour juste le devenir de leurs propres enfants. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça.
Au-delà de ça, l'angoisse identitaire. L'angoisse, les gens ont peur.
Alors, l'angoisse identitaire, elle est toujours liée au fait que les gens ont peur pour leurs enfants. qu'est-ce qui fait que l'angoisse identitaire... mon père, quand il vient d'Algérie de première génération, il a une angoisse identitaire là-bas parce qu'il se dit comment je vais nourrir mes enfants. Donc à partir du moment où on aura réglé, et c'est pas en étant dans le modèle économique qu'on est aujourd'hui libéral, qui a pas démontré ses preuves, c'est en changeant de modèle économique qu'on va pouvoir en faire travailler les gens et leur donner une dignité et surtout une sécurité à la fois pour eux et à la fois pour leurs enfants. On fait partie des générations, je le dis toujours, qui s'occupent des ascendants comme des descendants. Donc, c'est des réponses concrètes qu'il faut avoir. Vous me dites le Parti Socialiste, oui, le Parti Socialiste propose des choses, mais je pense qu'on ne va pas assez loin sur le diagnostic et en tout cas sur des réponses un peu plus, on va dire, fermes, qui nous feraient taxer de non-humanisme, de non-fraternel, de non-ceci. Oui, les gens ont peur. Oui, il y a une crise d'identité. Qu'est-ce que c'est d'être français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est d'être enfant de la République? Ça se pose comme question.
Alors, venons à cette fédération dont vous êtes la première secrétaire. Une surprise, on le disait, ça fait maintenant à peu près 6 mois, hein, un peu plus de 6 mois, vous avez le mandat. Déjà, peut-être surprise, votre courant était arrivé en tête, hein, qui pesait 20% au Congrès à peu près, et je crois dans le 13, 35
32.
32, voilà l'échelle. Donc une fédération avec une heure de gloire, enfin, elle a toujours été longtemps été présentée comme une des plus puissantes de France, et puis... vous avez été élu par 1300, donc ce qui donne à peu près l'indication du nombre de gens, du nombre d'adhérents. Alors, c'était un cadeau de se retrouver à la tête de cette fédération, avec tout cet historique de bataille interne, de soupçons aussi parfois sur les pratiques politiques.
Je ne l'ai pas pris comme un cadeau, mais comme une responsabilité, on va dire.
En même temps, vous étiez candidate. Hein.
Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas un cadeau. Enfin, c'est pas, voilà.
Malgré ce passé, malgré ces casseroles, malgré ces...
Oui, parce que je pense que... Moi, je suis très... Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire, je suis élue depuis longtemps, élue locale. Avec parti d'une fédération, pas de fédération, je vais vous dire, ça a peu d'importance, la fédération du Parti Socialiste. Donc j'ai toujours été élue. Aujourd'hui, on est dans une passe tellement difficile. Je ne suis pas candidate à la municipale pour mon territoire. Donc j'ai du temps, j'ai de l'engagement et de l'énergie à offrir à cette fédération, à ces militants que je côtoie, que je connais depuis longtemps. Bon, deuxièmement, j'avais, je crois, une seule différence par rapport aux autres, si ce n'est celle de la ligne, c'était celle de ne pas être marseillaise qui, du coup, m'éloignait de...
C'est un atout.
Ah oui, je crois que c'est un atout, parce que du coup, comme je ne sais pas qui, avant, faisait quoi, et était avec qui, et marchait avec qui, et faisait quoi, franchement, ça m'aide. Parce que du coup, moi, en face de moi...
Vous n'arrivez pas totalement amnésique dans cette fédération des Bouches-du-Rhône, quand même. Vous avez au moins lu les journaux, vous savez qui est qui fait quoi, qui a été suspecté, qui est passé en jugement, ou qui attend le jugement.
Non. Mais on parlait des guéguerres internes, donc les guéguerres internes, aujourd'hui je n'ai que des militants, c'est ça l'avantage, à part une parlementaire,
Samia Ghali, c'est la dernière,
tous les ex, enfin bref, voilà, ça reste des militants, alors actifs, moins actifs pour certains, bon, ça c'est la première chose, donc ça aide. Deuxièmement, ça aide aussi, puisque je n'ai jamais siégé, ni au département, ni à la région, donc du coup j'ai plutôt un rapport plutôt politique et pas personnel, et du coup on ne peut pas me targuer d'être d'une chapelle ou d'une autre. Voilà, alors ensuite, vous me parlez de qui a été soupçonné, qui devrait l'être ou que sais-je, et comme je suis pas, j'ai pas été élu procureur, moi j'ai été élu première fédérale des Bouches-du-Rhône, donc première fédérale des Bouches-du-Rhône, être fédérale des Bouches-du-Rhône d'ailleurs comme de la du Finistère, c'est le même traitement, c'est faire attention à ce que une fédération fonctionne, donner les moyens aux secrétaires de section de militants, et puis créer le débat.
Mais vous allez pas me réciter le que sais-je du premier secrétaire quand même là.
C'est important.
Olivier Faure, secrétaire national du PS en conclusion d'un séminaire à Marseille au mois d'août, s'adressant aux leaders sociaux. S'adressant aux leaders socialistes locaux, je souhaite qu'on me parle désormais de vous pour de bonnes raisons. L'image et la réputation qui collent à la Fédération des Bouches-du-Rhône, vous la connaissiez quand même, vous avez aujourd'hui les clés.
Oui.
Donc, Eh ben, vous ripollinez ça avec quoi?
Ben,
avec
je n'étais pas au courant. Je me dis que non, pas du tout. Je me dis qu'Olivier Faure devait être beaucoup plus au courant que moi, parce que je crois qu'il a participé à toutes les majorités de cette fédération et que il devait apparemment, vu qu'il a et il avait en face de lui au moment où vous parlez à la fois son mandataire Benoît Payan et à la fois Samia Ghali et Patrick Menucci et Marie-Arlette Carlotti. Enfin bref, tous ceux qui ont fait la vie socialiste.
Ils sont toujours présents, non?
Ils sont toujours présents.
Il était, c'est les anciens barons.
C'est ça. D'ailleurs, je m'excuse, je crois qu'il ne s'est pas adressé à moi. Je crois qu'il parlait à ses anciens camarades, qu'il connaît beaucoup plus que ce qu'il me connaît, moi.
Michel ?
C'est un atout ou c'est un poids, ces barons, là, on vient de les citer, et d'autres, hein.
Je sais pas ce que c'est que moi, un baron, je vous dis, j'ai, j'ai des
baron,
militants.
Un baron, c'est un élu local qui a eu beaucoup de mandats, beaucoup de pouvoir, peut-être
voilà,
des clientèles aussi.
Ben, depuis le mois d'avril, moi, j'en connais pas de baron, parce qu'il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de gens qui cumulent des, voilà.
Oui,
des,
mais ils se positionnent déjà.
Moi, j'aimerais.
Il y a des échéances électorales, ils veulent se faire réélire, ils vont vous demander des...
Alors, les futurs barons, des, alors.
Les anciens qui veulent connaître
drôle. Concrètement, la baronnie s'explique d'une manière suivante. Il y a quelques jours dans la Provence, Patrick Menucci et Henri Gibrayel, deux militants socialistes, oui, des Bouches-du-Rhône, se décident et font un papier en disant que la meilleure candidate pour 2020, c'est Samia Ghali. Donc tout ça se décide...
À Marseille.
Donc tout ça se décide hors de la Fédé. Il n'y a plus de processus. Vous êtes tenu à l'écart. Comment ça se passe? Samia Ghali a minaudé un petit peu et a répondu en disant qu'elle était flattée. Et qu'elle acceptait.
Donc
la Fédé ne sert à rien, vous ne servez à rien.
Mais excusez-moi, pardon, mais j'ai d'avoir une pratique qui doit être bizarre à la Fédération des Bouches-du-Rhône, mais j'ai pas empêché des gens et des camarades socialistes à s'exprimer, de savoir qu'ils soutiennent ou qu'ils soutiennent pas.
En 2020.
Ou en 2021.
Hors processus électoral interne, s'il y a, hors désignation.
La désignation se passera comme...
Donc la cacophonie a commencé, on peut dire ça comme ça.
Non, je pense que c'est les soutiens qui ont commencé. Et c'est bien, ça veut dire que donc le Parti Socialiste existe, si on trouve encore des camarades pour dire du bien d'autres camarades, vous voyez, vous le soulignez pas.
Alors, vous êtes une militante aguerrie, et vous savez que des municipales, des élections locales, ça se prépare en avance. Et que si on veut faire l'union, faire converger des forces, comme vous le dites, y compris pas uniquement dans votre parti, il faut s'y prendre assez tôt. Autrement dit, clairement, l'année 2019, c'est déjà l'année des pré-municipales, où les choses vont se jouer juste après les européennes. Alors, dans ce département, vous pensez que le Parti Socialiste a une carte à jouer, peut reprendre des mairies, peut... Et que, comment vous y travaillez à ce schéma?
Alors déjà, il y a une chose importante, c'est que vous oubliez qu'il y a une annonce du gouvernement sur la fusion métropole-département qui changera le mode de scrutin, à la fois pour la municipale et à la fois pour la métropole, qui est un enjeu majeur pour...
On va y venir, sur Arles en particulier.
Donc, non, mais au-delà d'Arles, c'est-à-dire même si on reste sur le périmètre de la métropole, on a aujourd'hui une annonce très claire, puisque la lettre de mission du préfet a au moins ça de clair, c'est de dire on change le mode de scrutin. Et donc, on aura des élections métropolitaines, un peu comme les régionales. Où,
ce sera sur liste.
Ce sera sur des scrutins de liste. Voilà. Donc, avec une liste. Donc, vous voyez, il va falloir s'attacher à faire des listes pour les communes et des listes pour la métropole. Vous rappeliez que le Parti Socialiste, on était peu nombreux, si j'ai bien compris le sens que je partage. Donc, j'ai envie de dire qu'on est serein. Chacun trouvera une place dans le dispositif, puisqu'on a deux élections en même temps qui couvrent l'ensemble. Deuxièmement, sur les communes. Aujourd'hui, nous avons des communes socialistes qui fonctionnent, avec des maires qui agrègent autour de leurs projets des personnalités, qu'elles soient d'ailleurs locales, de partis politiques ou de sociétés civiles. Déjà, mon premier travail, c'est que ces maires-là soient, consolidés, accompagnés pour ne pas perdre leur commune. Ça, c'est la première chose. Le maintien déjà des communes existantes. Deuxièmement, c'est la reconquête et la conquête. Donc, il y a Marseille, c'est un sujet, je sais, qui est important. Je l'ai dit pendant ma campagne. Je pense que le sujet de Marseille, c'est ce que je disais à Olivier Faure quand vous le citiez sur les journées parlementaires. Je pense que Marseille doit être un enjeu national. C'est un parti national. On est la deuxième ville de France dans ce territoire. Je crois que Paris est bien accompagné par le Parti Socialiste. Et c'est normal que Anne Hidalgo profite, on va dire, du parti et vice-versa. C'est pareil sur Marseille. Si on va avoir une conquête très claire, il faut que le Parti Socialiste s'occupe de la deuxième ville de France. Et donc, du coup, moi, je n'ai aucun ego d'être la première fédérale qui joue au coude pour exister sur la municipale de Marseille. Moi, l'important, c'est qu'on gagne. Donc après, qu'on gagne peut-être pas l'ensemble de la commune, peut-être qu'on gagne des secteurs, peut-être, mais en tout cas, qu'on soit dans un travail de reconquête sur les territoires marseillais. Troisièmement, j'ai une ligne. C'est celle, et je l'ai lancée au mois de mai, et à la fois à l'ensemble des forces républicaines. Le 13-14, est-ce qu'il peut revenir dans la République si ça emmerde personne et que chacun se fasse ses petites tambouilles comme il souhaite, mais juste les habitants du 13-14, est-ce que c'est possible
mairie
qu'ils repartent? Oui, la mairie.
Gagnée par Stéphane Ravier et aujourd'hui c'est dans les mains.
Est-ce que quelqu'un me fera la démonstration de mettre en acte l'histoire de la République et que qui que ce soit qui a la possibilité de gagner, on soit tous derrière pour juste avoir
Alors celui préciser, qui... qu'est-ce que ça veut dire qui que ce soit?
Qui que ce soit, je n'ai pas regardé les chiffres de la législation. Législative, honnêtement, sur cette partie-là du territoire. Mais ça doit être un symbole pour l'ensemble des partis qui sont.
Ça veut dire que si quelqu'un de La République En Marche, un insoumis, un communiste.
Exactement, une société civile qui est dans La République. Mais il faut arrêter avec ce scandale. C'est scandaleux.
Parlons des alliances. Alors, au-delà de la question de cette mairie de secteur Front National. Rassemblement national aujourd'hui, donc d'extrême droite. Les alliances, jusqu'où ça doit aller? Est-ce que, en particulier, se pose la question d'alliance avec les marcheurs, avec le parti d'Emmanuel Macron?
Ah non, mais moi je suis de gauche, pardon. Donc, comme je suis de gauche, pour l'instant, les marcheurs ne m'ont pas fait. Je mets le 13-14 hein, de côté où on n'est plus sur marcheur par marcheur, droite-gauche, voilà. Donc c'est le même traitement que pour les élections régionales. Mais d'abord, on va d'abord s'allier peut-être et travailler avec la gauche, qui va du Parti communiste qui est très bien implanté à Marseille, pour ce vieil Jérémy Bacchi, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui est implanté à Marseille, qui existe très bien, Europe Écologie Les Verts, où il y a en tout cas du militantisme un peu partout et on les retrouve. Trouve notamment sur les luttes qu'on partage sur le front syndical. Il y a des personnalités, peut-être que les européennes vont d'ailleurs peut-être nous donner d'autres personnalités sur des listes de gauche, qu'elles soient socialistes ou autres. Donc ces premiers, je pense, c'est la gauche.
Alors, vous n'êtes pas sur la même ligne que votre dernière et unique parlementaire dans les Bouches-du-Rhône, à savoir Samia Ghali, qui a commencé à faire des appels du pied vis-à-vis des marcheurs, mais aussi vis-à-vis de peut-être de la droite, de Renaud Muselier, qui est en dissidence et qui cherche des alliances.
Moi, je pense que la particularité aujourd'hui des uns et des autres, c'est de vouloir des alliances avant même d'avoir un projet. Vous parliez de Marc Villemot tout à l'heure. Il est maire de La Seille depuis 40 ans. Réélu et élu et réélu. Pourquoi? Parce qu'il a un projet politique et autour de son conseil municipal, il a des gens de ce qu'on appelle le NPA là-bas, au MoDem, sur son projet. C'est quoi le... Donc, aujourd'hui, quelle est notre capacité à proposer un projet de gauche sur Marseille?
Alors là, vous dites si le projet est bon, il peut y avoir des marcheurs.
Mais si, une fois que le projet est bon, qu'on prenne des personnalités pour porter le projet, mais aujourd'hui qu'on ait déjà un projet, enfin, je veux dire,
sur Marseille, pardon, Saïd Hamada, au nord de Marseille, il vient de Voran aussi, enfin, il se positionne dans l'opposition municipale pour l'instant,
de Jean-Claude Gaudin. Donc, ils sont déjà dans un marqueur d'opposition municipale. Je crois qu'en
Alors,
marche.
Lui, il est compatible, par exemple?
J'en sais rien. S'il est compatible au projet, il est compatible. S'il bosse, il n'y a pas de souci.
Tous ceux qui font des castings dans les journaux, vous leur dites d'abord un projet, après
mais
on
oui.
verra.
Et alors là, Mélenchon dirait, tiens, le retour de la soupe aux sigles.
Mais il faut que lui ait même traitement pour lui, d'ailleurs, que le France Insoumise est un projet.
Il y a quand même une contradiction. Il y a deux minutes, vous disiez, je ne suis pas de droite, les marcheurs.
Non, vous me parliez d'alliance.
On est dans une liste qui va.
Vous me parlez de deux choses différentes. Je vous dis aujourd'hui, ce qu'attendent les Marseillais de manière générale sur l'ensemble des territoires, c'est quel est le projet. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les alliances. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on parle d'alliance? D'abord, ben, nous, le Parti Socialiste, d'ailleurs, pour dire qu'a priori, j'ai compris qu'il fallait s'allier déjà nous-mêmes si vos ressources sont bons. Donc, à partir du moment où on a un projet politique, qu'après on aille m'expliquer qu'il faut faire une alliance, pas une alliance, on verra. Mais qu'on ait un projet politique ambitieux. Et c'est ce que je demande, à mon sens, vous me demandez ce que je demande, au-delà de la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer dans la presse locale et nationale, je leur demande de travailler vers un projet qui converge au plus grand nombre.
Parlons un peu d'immobilier, parce que ça ressemble un petit peu à un bizutage, votre installation. Ça fait 6 mois que vous êtes premier secrétaire, vous n'avez toujours pas de local, vous faites des réunions dans les cafés, dans les arrières-salles.
Non, on a un local. Non, vous êtes mal renseigné. On est encore hébergé dans la Fédération des Bouches-du-Rhône, donc nous faisons nos réunions.
Le siège a été vendu.
Le siège a été vendu. Comme il n'est pas encore occupé par la maison de l'avocat, la bâtonnière a accepté de renouveler un bail jusqu'au 30 novembre. Et je ne doute pas qu'au 1er décembre, nous serons
vous
dans nos locaux.
Pistes.
Oui, c'est pas les pistes qui sont compliquées, c'est le prix.
Alors un mot quand même sur un dossier qui vous anime et puis qui pèse, hein, c'est celui de la naissance et puis du développement de cette métropole marseillaise et peut-être de la fusion du département.
Vous voulez dire que l'autonomie
et de
du pays d'Arles, vous voulez
et
dire.
L'absorption du pays d'Arles.
Comment le pays d'Arles reste autonome, qui n'a pas été encore absorbé par la métropole.
Pour parler clair, nos auditeurs, vous êtes opposé à ce scénario.
Je suis pas opposé au scénario de la métropole actuelle, à fusion du périmètre du département avec le périmètre de la métropole actuelle. Je ne suis pas opposé parce qu'il faut donner les moyens à cette métropole de fonctionner et que déjà, c'est un péché originel. Donc, vous voyez, j'ai encore des reproches dans le quinquennat de François Hollande que d'avoir tracé ce périmètre-là qui ne correspond à pas grand-chose, si ce n'est la plus grosse métropole déjà de France. Deuxièmement, c'est une métropole d'exception et donc qui a transféré 32 compétences qui va du quotidien jusqu'aux grands projets structurants à cette métropole. Et 3 ans après, force de constater qu'à part une addition d'oléances des communes, ils n'ont pas les moyens de fonctionner. Donc je ne suis pas opposée à ce périmètre-là. Je suis opposée à ce que le pays d'Arles rentre dans la métropole.
C'est combien de communes concrètement pour
c'est
les 29, auditeurs
29 communes, c'est 9% de la population du département et 40% en termes de territoire. Parce que je vous rappelle que la commune d'Arles est la commune la plus étendue de France. Donc,
elle va de Salins-de-Giraud
à la frontière, de l'autre côté à Saint-Martin-de-Crau et avant la partie de Tarascon. Donc, résultat les courses, on a, nous, ce qu'on appelle depuis des années, un territoire qui est en interface avec le Grand Delta, c'est-à-dire le Vaucluse, le Gard et la partie, on va dire, métropolitaine. Donc, on a à garder ce projet-là. On est un projet d'interface entre ces trois départements, cette grande région, autant Occitanie d'ailleurs que PACA. Et on a notre possibilité de pouvoir fonctionner et continuer à fonctionner comme ça.
Donc, je résume, oui à la fusion, à l'absorption du département
sur le périmètre actuel.
Mais on conserve des prérogatives pour le pays d'Arles.
Le pays d'Arles reste autonome à côté de la métropole comme il l'est aujourd'hui, avec des prérogatives qui seront celles des politiques de proximité que menait le département, puisque in fine, c'est-à-dire que le département n'existera plus, les compétences du département seront absorbées par la métropole d'un côté et une intercommunalité unique à l'échelle du pays d'Arles de l'autre.
Et si la métropole calque son territoire sur celui du département, vous faites comment ?
Je trouve ça scandaleux. Alors, comme j'ai proposé au préfet de faire des consultations populaires, puisque je n'ai pas compris pourquoi le préfet pouvait décider avec le gouvernement...
Vous allez en tenir compte et vous pensez que le préfet va en tenir compte de ces consultations
populaires ? C'est pas le préfet, c'est le gouvernement, là, pour le coup. En tout cas, nous voterons le 9
décembre. C'est une valeur juridique
de
faire voter les gens
Bien sûr, c'est une valeur juridique que de faire voter le peuple. Et puis, je trouve que c'est une bonne chose.
Parce que là, je me souviens, il y a quelques années, les habitants de Salins-de-Giraud avaient
c'est
voté.
C'est pas faux. Nous
et
les avons...
Arles avait refusé.
C'est pas faux. Et moi,
vote-là.
J'étais pas pour refuser. Vous voyez, comme ça, je la souveraineté populaire, ça me cheville au corps.
Pour nos auditeurs, comment vous pouvez leur expliquer, les convaincre que c'est pas simplement des élus locaux qui veulent garder leur petit appareil, leur petite architecture locale
voir.
Parce que c'est un peu compliqué, là. Donc, on fusionne, mais on garde notre autonomie.
J'insiste. Aujourd'hui, il y a deux propos. Il y a la première fédérale des Bouches-du-Rhône qui vous dit, effectivement, il faut fusionner le département avec le périmètre de la métropole actuelle. C'est ce qui est en cours. La deuxième chose, c'est le pays d'Arles. Le pays d'Arles, aujourd'hui, est autonome et fonctionne à côté de la métropole dans le département des Bouches-du-Rhône. Le pays d'Arles, s'il rentre aujourd'hui dans la métropole, c'est 13 millions d'euros de fiscalité supplémentaire pour ses habitants. C'est 170 000 habitants, parce que c'est mécanique. Il faudra lisser les taux, ce qui s'est passé il y a 3 ans, quand les 91 communes ont été prises dans la métropole. Deuxièmement, nous serions donc la métropole la plus grande de France avec, je vous explique, vous allez vite comprendre, Rognonat, qui est donc dans les Bouches-du-Rhône, la petite boue qui est à côté de Avignon, qui est à 20 km d'Avignon et qui est à 186 km de Marseille. Le bassin de vie n'est pas le même, le travail domicile-travail n'est pas le même, et ce serait une métropole, une mégapole de 2 millions d'habitants où l'identité du pays d'Arles n'est pas liée à ce bassin de vie marseillais.
Un mot peut-être sur une ascension politique fulgurante aussi, celle de Martine Vassal, donc qui se trouve à la fois à la tête du département, à la tête de cette métropole et qui a même des ambitions peut-être, c'est pas encore très clair pour Marseille, et qui aujourd'hui finalement par son portefeuille gère le budget en France d'une collectivité locale le plus important après Paris.
Eh bien, c'est pas ma conception de la démocratie. Je l'ai dit au lendemain où elle a été élue par ses pairs, puisque c'est pas le peuple qui l'a élue, c'est les conseillers métropolitains. Qu'il fallait qu'elle prenne la décision, à mon avis, de prendre ou de démissionner du département ou de démissionner, pas de la métropole, puisqu'elle s'est présentée en candidate. Je trouve que c'est très dangereux, comme toujours, de laisser dans les mains d'une seule personne deux exécutifs qui sont très importants sur le département des Bouches-du-Rhône.
À part à Arles, tous les élus locaux, enfin beaucoup, pas tous, mais de nombreux élus locaux, y compris même jusque dans les rangs du Parti communiste, ne tarissent pas d'éloges sur sa capacité d'écoute, sur... Elle distribue, elle a des budgets aussi pour les communes.
Moi, je sais pas, je la connais pas, donc je sais pas si elle a une capacité d'écoute. Ce que je sais, c'est qu'elle a une capacité d'aide aux communes. Mais enfin, c'est comme tous les départements. Je rappelle que l'aide aux communes étant facultative, elle en fait ce qu'elle veut.
Enfin, vous avez l'ancienne majorité au département voilà, a été plutôt généreuse avec
exactement,
la ville d'Arles.
Avec le pays d'Arles de manière générale. Je crois que voilà, vous oubliez Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Martin-de-Crau et autres. Bon, et pour autant, ces mêmes villes, que ce soit Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, qui a été et accompagné énormément par le département et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais et Saint-Martin-de-Crau ne veulent pas l'intégration dans la métropole. C'est pas une question de vouloir le chèque d'ailleurs en blanc du département, si tant est que ce soit un chèque en blanc. On parle des sous des contribuables, je m'excuse, mais de l'autre côté et on participe à la solidarité départementale quand le métro ou le tram, enfin le tram métro, parce que j'ai pas compris que ce soit le même tracé, jusque là j'ai pas saisi la question, fonctionne à Marseille, c'est une solidarité départementale. C'est pas que sur les budgets des communes à côté. Donc non, je pense que ce n'est pas bien d'avoir dans les mains d'une seule personne l'ensemble des budgets de ces deux grandes collectivités locales.
Alors on le disait au tout début dans le portrait, vous êtes présidente du groupe du Parti Socialiste à Arles. Hervé Schiavetti, ça fait longtemps qu'il est maire.
2001.
Il faudrait que ça se renouvelle un petit peu. Il va être candidat.
Schiavetti qui est communiste, je rappelle aux auditeurs.
Hervé Schiavetti qui est communiste. Non, il a annoncé au lendemain de sa réélection en 2014 qu'il n'était plus candidat. Il l'a confirmé au vœu cette année qu'il ne souhaitait plus être candidat en tant que maire de la ville d'Arles. Donc, je crois, ou alors il aurait changé d'avis, que pour l'instant, il n'est pas recandidat à la municipale.
Alors, on est journaliste, vous nous voyez venir. Seriez-vous candidate à la mairie d'Arles?
Je suis candidate à ce que là, le pays d'Arles soit autonome.
C'est-à-dire?
Je redis... Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que l'ensemble des 29 communes du pays d'Arles, et Arles particulièrement, ne rentrent pas dans la métropole. Et ça conditionnera, je pense, le fait que des maires sortants repartent à l'élection.
Non, mais vous-même, vous ne faites pas acte de candidature pour la mairie d'Arles.
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Non.
Mais c'est pas exclu.
Et en même temps, rien n'est exclu dans la vie. Mais enfin, c'est pas.
Donc,
c'est pas dans, voilà, c'est pas
peut,
dans mon.
On peut dire que vous avez étudié la question.
Ce que je sais, c'est que je milite pour un rassemblement de la gauche.
Oui, mais vous avez étudié la question.
Non.
Non ?
Non.
Je crois que l'émission va bientôt se terminer sur cette non-déclaration, mais qui laisse quand même la perspective ouverte.
La porte ouverte. Nora Mbarek, je vous remercie.
Merci à vous.
Allez, je vous retrouve le mois prochain. Bye.
La Grande Tchatche, le ravi, Radio Grenouille.